France Musique.
Texte qui a été mis en musique notamment par Schubert.
Eh bien, à demain.
À demain.
Beethoven, le génie indompté, un podcast de Saskia Deville. En 5 épisodes, tout savoir sur une compositrice ou un compositeur, leur vie, leurs œuvres.
Beethoven, cet homme immense.
Il y a certains aspects de sa vie qui sont encore mystérieux.
Je suis Ludwig van Beethoven.
Le destin exceptionnel de Beethoven stimule notre imaginaire depuis bientôt 2 siècles.
Les sagas musicales de France Musique à retrouver sur le site et l'application Radio France.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Je m'appelle Zao.
Zao de Sagazan, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Dylan Corley. Un concert unique, en direct et en public demain, à partir de 20h.
France Inter, une radio de Radio France.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Bonjour à tous. Le petit poussé de la semaine dernière m'a conduit à vous parler de Frédéric II, roi de Prusse. Monarque notable, amateur d'art et de musique en particulier, au point de réunir autour de lui une véritable école. Eh bien, on va lui consacrer aujourd'hui un petit bout de portrait. 16 heures en disque de légende, début d'une semaine en prévision du centenaire Puccini à la fin de l'année, et sous le titre « Le printemps Puccini », avec ce lundi « La bohème » de Tullio Serafine. Mais pour commencer, Frédéric II, à la lumière de ses musiciens.
Thank you.
Emmanuel Pahut à la flûte avec l'Académie de chambre de Potsdam et Trevor Pinnock au clavecin et à la direction dans un concerto en mi mineur de Franz Benda, l'un des compositeurs embauchés à la cour de Frédéric II de Prusse. Frédéric II dit encore Frédéric le Grand. Ce fut un personnage politique absolument central dans l'Europe du XVIIIe siècle. Monté sur le trône en 1740, il y resta 46 ans. Son action politique consista pour l'essentiel à agrandir le territoire de ses États en faisant la guerre, parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Mais enfin, il fit ainsi de la Prusse une grande puissance européenne, ce qu'elle n'était pas avant lui. Avec, en interne, un mode de gouvernement relevant de ce qu'on appelait alors le despotisme éclairé, c'est-à-dire un pouvoir centralisé, mais placé sous le signe de la justice et de la raison, donc tolérance religieuse, abolition de la torture, promotion de l'enseignement. Il y a eu aussi des zones d'ombre dans la politique de Frédéric II, mais on va laisser ça de côté. Et on va retenir son goût pour les arts en général, et la musique en particulier. Il était d'ailleurs lui-même compositeur et flûtiste, élève de Johann Joachim Kantz, qui était tout simplement le plus grand soliste à la flûte de son temps. Thank you. voix Emmanuel Pahut qu'on entendait dans cet extrait du concerto en sol majeur de Johann Joachim Quantz. Dès son accession au trône en 1740, Frédéric II s'attacha à refonder et à étoffer son orchestre de cour. Il y avait au départ une douzaine de musiciens. Il l'élargit jusqu'à 50, qui pour l'essentiel jouaient dans son château de Sanssouci et dans le style international de l'époque qu'on disait style galant. L'orchestre devint rapidement le centre de la vie musicale dans le nord de l'Allemagne. Il donna même naissance à une école dite École de Berlin. Parmi ses musiciens, donc, Quantz, qu'on vient d'entendre à l'instant, qui reçut le titre de compositeur de la cour, mais il y avait aussi l'un des violonistes les plus réputés de cette époque, George Benda, ou encore le compositeur Karl Heinrich Graun. Et puis en voici un qu'on n'a pas encore cité, qui est pourtant fondamental, c'est Carl Philipp Emanuel Bach. Anna Maria Markovina interprétait l'une des sonates dites prussiennes de Carl Philipp Emanuel Bach. Du temps, le musicien était premier clavecin de la chambre du roi de Prusse. Il y fut nommé en 1740, il y resta 26 années, composant de très nombreuses sonates pour clavier, d'abord au clavecin, plus tard au clavicorde et au pianoforte. Bon, à la fin, Carl Philipp Emanuel en eut un peu marre, semble-t-il, de passer son temps à accompagner le roi flûtiste. Ça faisait en effet partie de sa charge. En plus, les goûts du monarque pour le style galant exclusivement, tout à fait dans l'air du temps, 1740, se trouvait un peu décalé dans les années 1760. Mais enfin, ce fut pour CPE, comme on l'appelle parfois, une longue et belle et importante période de sa vie créatrice. «
Thank you.
Extrait du concerto pour flûte en la majeur de Carl Philipp Emanuel Bach par Juliette Hurel, Harry Van Beck et l'Orchestre d'Auvergne.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
Frédéric commença la musique pour la première fois à l'âge de 7 ans. À l'adolescence, différents voyages et événements diplomatiques le confirment dans ce goût, ainsi que dans le choix, de son instrument, la flûte. Comme beaucoup de musiciens d'alors, il compose très naturellement, singulièrement pour lui-même, 121 sonates pour flûte et basse continue, 4 concertos pour flûte et quelques autres pièces encore. Voici l'une de ces sonates du roi Frédéric le Grand par Bartold Kuyken et Bob Van Aspern.
Thank you. Il savait écrire, ce monarque, Frédéric II, grand roi de Prusse, ici dans une sonate en mi mineur par Bartold Kuyken à la flûte traversière baroque et Bob Van Aspern au clavecin. Alors l'œuvre qui fait que les histoires de la musique retiennent vraiment le nom de Frédéric II, c'est bien sûr l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Faut se reporter en l'année 1747. Bach vient voir son fils, Carl-Philippe Emmanuel, à la cour de Frédéric II. Il rencontre à l'occasion le roi, qui lui fait essayer ses nombreux instruments à clavier. Il possédait en effet une quinzaine de clavecins et de pianoforte. Et puis au cours de la soirée, le monarque soumet à Bach un thème musical de son invention. Jean-Sébastien se met à improviser dessus, un contrepoint très serré, mais il promet de faire mieux avec une grande œuvre mûrie sur ce royal sujet. Ce sera donc l'offrande musicale qu'il écrira à Leipzig dans les mois qui suivent et qu'il dédiera, je cite très humblement, à Sa Majesté le roi de Prusse. Laurie Tcherkar, Assis, extrait de l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach par Jordi Savall et le Concert des Nations. Ainsi s'achève notre petite évocation du jour du roi Frédéric II.
France Musique, relax, Lionel Esparza.
On va refermer cette première heure de relax avec le violoniste Gabriel Le Magadur, qu'on va écouter d'abord au sein de l'ensemble où il s'est si bellement développé ces dernières années, le Quatuor Ebène. Le voici, les voici, dans un quatuor de Beethoven qui va donner un drôle de prolongement à ce qu'on vient d'entendre.
Thank you.
C'était un extrait du troisième quatuor à cordes de Beethoven, un extrait de l'intégrale qu'on a donné le quatuor Eben il y a 5 ans maintenant, si je compte bien. Quatuor Eben qui a 25 ans d'âge, Gabriel Le Magadur, en est second violon, je crois depuis l'origine, ou peu s'en faut, il a fait des merveilles au sein de ce quatuor Eben. Et bien il nous arrive cette fois-ci avec un disque en solo, il a choisi deux très grandes pièces de musique française, le concert opus 21 d'Ernest Chausson, et puis la sonate pour piano et violon en sol majeur de Guillaume Lequeux, une œuvre toujours assez rare, à laquelle les violonistes reviennent régulièrement, mais cette œuvre a du mal à s'imposer auprès des mélomanes, j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que c'est une véritable splendeur. Ici, Gabriel Le Magadur, sur ce disque quasiment soliste, a choisi à ses côtés Franck Bralet. On les écoute dans un extrait de cette sonate de Guillaume Lequeux.
Thank you.
Le final de la sonate pour violon et piano de Guillaume Lequeux par Gabriel Le Magadur et Franck Bralet. C'est la parenthèse soliste, si l'on peut dire, que s'offre Gabriel Le Magadur sous le label Appassionato. Il est 16h.
France Musique, disque de légende. Lionel Esparza.
Le 29 novembre, on commémorera le centenaire de la mort de Puccini. En prélude, je vous propose une semaine de disques de légende sous le titre « Le printemps Puccini ». Aujourd'hui, La Bohème par Tullio Serafin. L'ouverture du deuxième acte de la Bohème de Puccini, où il se passe tellement de choses, on l'a entendu, tellement de personnages qui passent. On était en 1959 pour Decca sous la direction de Tullio Serafin, avec cette capacité du chef de raconter à l'orchestre ce que le disque ne permet pas de voir, puisque la scène n'est pas là. Tullio Serafin, il faut le dire, est au cœur de son répertoire avec cette Bohème. C'était un chef d'opéra quasi exclusif, disciple de Toscanini, dont il avait été l'assistant à la Scala de Milan. Il avait été aussi l'un des principaux propagateurs de l'opéra italien dans la première moitié du XXe siècle, Rossini, Donizetti, Verdi, Leon Cavallo et donc Puccini. Du 1er au 9 août 1959 à Rome, il grave donc cette Bohème avec une distribution qui n'est pas sans défaut, mais un formidable duo de tête en Rodolfo Carlo Bergonzi, d'un style et d'une noblesse admirable, et en Mimi, Renata Tebaldi, avec son sens de la ligne et cette émotion à fleur de peau qui est toujours la sienne. Ici, tous les deux, leur rencontre à la fin du premier acte.
Al buio
Le final de la Bohème de Giacomo Puccini, Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, un peu des voix aussi d'Ettore Bastianini et Cesare Siepi. C'était l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dirigé par Tullio Serafin, en 1959 pour le label Decca, un disque de légende à retrouver sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
France Musique, relax. Lionel Esparza.
On a appris une triste nouvelle pendant cette émission, la mort de Bernard Pivot, le célèbre homme de télévision, décédé aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 89 ans. Bernard Pivot était écrivain, journaliste, ex-président de l'Académie Goncourt. Il a surtout été, pendant 15 ans, le présentateur d'Apostrophe, l'une des émissions les plus célèbres du service public, diffusée sur Antenne 2, on s'en souvient à l'époque, entre 1975 et 1990, c'était tous les vendredis soirs, un rendez-vous absolument incontournable, qui fut parfois critiqué comme trop vulgarisateur. Sauf qu'à distance, on aimerait bien aujourd'hui que la télévision nous propose beaucoup d'émissions aussi vives et intelligentes sur les livres. Leur Apostrophe, bien sûr, l'un de ses symboles, c'était son générique, le premier mouvement du premier concerto pour piano de Serge Rachmaninoff, dans une version qui avait été fort bien choisie, celle de Byron Jennings. C'est avec lui et en hommage à Bernard Pivot qu'on va refermer cette émission. Le Vivace qui ouvre le premier concerto pour piano de Serge Rachmaninov, Byron Jennings en soliste, l'Orchestre Philharmonique de Moscou et Kirill Kondrachine en 1962. Pour dire que la version a été bien choisie, elle a été disque de légende il y a 3 ans. C'était aussi, et bien sûr, le générique de l'émission Apostrophe pendant 15 ans, en hommage à Bernard Pivot dont on vient d'apprendre la disparition. À suivre encore sur France Musique, 2 concerts égoïstes de Bernard Pivot par Claude Beaupomé en 1977. Ce sera mercredi et jeudi dans les trésors de Françoise Monteil à 12h30. Merci à Jeanne Agrapard et à Stéphane Poitvin, tout particulièrement admirable aujourd'hui pour sa réactivité. Bah oui, certains jours, on change tout au dernier moment. Très bonne fin de journée à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.